Regarder un peu le service au sein de l'Église. Et on veut regarder particulièrement ce matin la question des anciens. Il y a deux fonctions vraiment dans l'Église que Dieu a placées, même s'il y a plusieurs genres de ministères au sein d'une Église. Il y a plusieurs genres de choses. Il y a des ministères auprès des hommes, auprès des femmes, des enfants, toutes sortes de choses qui peuvent se faire au sein d'une Église. Il y a quand même deux fonctions que Dieu a retenues, qu'il a placées, et qui sont vitales au sein d'une église, et c'est les diacres, et les diaconesses et les diacres. Et on va voir ça ce matin, surtout les anciens. Yannick va aborder la question des diacres la semaine prochaine. Dans trois semaines, on va regarder la question du service pour chacun d'entre nous. Et on a un prédicateur invité dans un mois, notre cher frère Guy Lavoie va venir ici apporter un message, la parole de Dieu. Donc, on espère que vous allez être avec nous pour tous ces quatre dimanches, pour cette série qui est très importante, parce qu'on veut vous présenter des candidats. Chaque année, vous savez, le Conseil des anciens, vous avez d'ailleurs les photos, j'ai vu en rentrant dans l'Assemblée, les belles photos de chaque membre du Conseil des anciens, anciens en formation. Et puis, on a un Conseil d'anciens, anciens en formation ici à l'Église, et à chaque année, on s'arrête quelques minutes et réfléchir à savoir si on n'a pas de nouveaux candidats qu'on aimerait inclure dans le Conseil des anciens, et c'est un rôle très important au sein d'une Église. C'est important aussi de bien comprendre comment les choisir et ce que c'est qu'un ancien. Le caractère et l'efficacité d'une Église est directement lié à la qualité de ses leaders. C'est une phrase, une déclaration qui est assez importante, mais je vais la répéter, c'est vrai, le caractère et l'efficacité d'une Église est directement lié à la qualité de ses leaders. C'est la raison pour laquelle on veut avoir des hommes de Dieu comme leaders au sein d'une Église. C'est ça qu'on veut. On veut des hommes de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible met beaucoup d'accent sur l'importance d'avoir des leaders qui sont qualifiés au sein de l'Église. Évidemment, c'est le Seigneur et l'Église ne repose pas sur des hommes. C'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui bâtit son Église. Mais il a choisi de travailler avec des hommes de Dieu, des diacres aussi, des diaconesses. Si le leadership d'une église a des problèmes, c'est évident que l'église aussi va avoir des problèmes. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec l'église d'Éphèse. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va prendre le temps d'expliquer à Timothée quelles devraient être les qualifications des anciens. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui a établi, qui a passé plus de 3 ans dans la ville d'Éphèse, et il a passé 3 ans à former des leaders. Il s'est vraiment collé avec eux, il les a formés, et après quoi, ils sont devenus des anciens. Donc, à l'époque, l'Église d'Éphèse avait un excellent leadership. Des hommes de Dieu mis en place par Paul, et ses leaders avaient toute une belle relation avec l'apôtre Paul. Il y avait vraiment une camaraderie, collégialité. Ils travaillaient ensemble, bel esprit d'équipe, si bien que même lorsque l'apôtre Paul a dû quitter, on a vu même ses anciens démontrer beaucoup d'affection à l'endroit de l'apôtre Paul. Mais avant de quitter la ville, l'apôtre Paul a reçu une prophétie qu'il a donnée à ses anciens d'Éphèse. Et j'aimerais vous la lire, c'est un avertissement qui est très solennel pour chacun d'entre nous. Et il dit dans Actes 20, 29, voici ce qu'il dit. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Et on parle de l'Église ici. L'Église est comparée à un troupeau. Et on sait bien que Jésus est le bon berger. On a cette belle image qu'une église, c'est comme un rassemblement de brebis et dont il faut prendre soin. Et l'apôtre Paul continue cette prophétie qu'il a reçue du Saint-Esprit. Et il dit, « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Paul savait que le diable allait s'introduire au sein de l'Église d'Éphèse et qu'il allait attaquer l'Église en introduisant de mauvais leaders qui allaient enseigner l'erreur. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé quand tu regardes l'histoire. Parce qu'après quelques temps, Paul se sent obligé d'intervenir et envoyer Timothée sur place afin qu'il règle certains problèmes qui s'étaient glissés au sein de cette église d'Éphèse. Alors que c'était une église où il y avait un leadership intègre, super, belle qualité de leader, voilà que ça avait changé parce que le diable avait essayé de détruire l'église d'Éphèse. Il a même, Paul lui-même a même s'est senti même poussé à écrire une lettre à Timothée dans laquelle il fait état de certains problèmes de leadership qui étaient en place maintenant dans la ville, dans l'église d'Éphèse. Et ce qu'on apprend en lisant sa lettre, c'est que certains problèmes au niveau du leadership s'étaient glissés. Premièrement, certains leaders n'avaient pas du tout les qualifications. D'autres s'étaient éloignés carrément de la parole de Dieu. D'autres avaient même carrément abandonné la foi. Il y avait aussi un problème au niveau du leadership en ce que des femmes étaient maintenant en poste de leadership au sein de l'Église. Et on sait une chose, bien qu'elles soient très capables, puisqu'elles ont été mises en place, des femmes très capables, on sait que dans le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que ce soit des femmes qui dirigent, qui donnent la direction à l'Église. C'est pas une question de capacité, d'ailleurs, je l'ai vu moi-même. J'ai donné des cours de prédication à plusieurs classes, et il y a des femmes qui viennent prendre des cours de prédication de temps en temps, elles prêchent aux femmes, il y a des rassemblements de femmes et tout ça. Et un de mes meilleurs élèves, d'ailleurs, qui m'a beaucoup impressionné dans la dernière année, c'était une femme. Tout un message, toute une prédication, et mon ami, on a tous été éblouis par la qualité de cette femme-là. Donc, pas question ici, on parle pas de capacité ici. Bien souvent, des femmes nous surpassent dans bien des domaines. On parle ici de la volonté de Dieu. Dieu a décidé dans son plan que ce ne soit pas, que le leadership d'une église ne soit pas remis aux femmes, mais ce soit donné aux hommes. Un autre problème avec le leadership, malheureusement, certains leaders de l'église d'Éphèse étaient même abandonnés. Abandonnaient le Seigneur, abandonnaient la foi, et pourtant ils restaient en leadership. Alors, il y a vraiment un problème. L'apôtre Paul va adresser toutes ces questions dans sa lettre. Parce qu'une église sera aussi pieuse que ses leaders. Oui, il y a des exceptions, absolument. Il y a toujours des gens qui ressortent de la foule, absolument. Mais en général, tu regardes à travers l'histoire de l'église, et ce qu'on tire comme conclusion, c'est qu'une église sera aussi pieuse que ses leaders. D'où l'importance de suivre les critères bibliques, les qualifications dans la sélection de nos leaders spirituels. Négliger cette responsabilité, c'est très sérieux. Très, très, très sérieux, cette question-là. Parce que négliger cette responsabilité de bien choisir des anciens au sein d'une église, c'est vraiment de s'attirer de graves conséquences. Et on le voit à travers l'histoire d'une église. Ça prend juste 20 ans pour détruire une église. 20 ans, tu mets les mauvais leaders en place, et après 20 ans, elles ne croient même plus à la Bible. C'est très sérieux. Il faut préserver l'assemblée et se choisir, se doter de bons leaders, des hommes de Dieu qui croient à l'inspiration plénière et verbale des Écritures saintes, qui donnent une direction au sein de l'Église en s'appuyant et en s'inspirant sur les Écritures saintes. En revanche, lorsqu'une Église se dote d'anciens qui sont des hommes de Dieu et qui ont à cœur ses membres, l'Église sera édifiée et bénie. C'est une bénédiction d'avoir des hommes de Dieu. Moi, j'ai eu le privilège de travailler avec des hommes de Dieu au fil des années. Je pense à M. Héron, je pense à M. Côte-Noir, je pense à plusieurs hommes au fil des années avec qui je suis, même avec Yannick ces jours-ci, ces années-ci, avec Alexandre, de voir ces hommes qui sont autour de moi, Michel, Robert, Saint-Pierre, tous ces hommes avec qui, Luc, ces hommes avec qui on s'est entouré au fil des années au sein de cette Église. Moi, je bénis Dieu pour l'équipe qu'il y a ici au sein de l'Assemblée de Longueuil. Je bénis Dieu. Vous avez vraiment, et c'est sans prétention, je parle de l'équipe autour, vraiment une belle équipe. Et je bénis Dieu pour ça. Et que Dieu nous envoie encore d'autres leaders consacrés, des hommes de Dieu. Et on a besoin de ça. Et donc, il est important, vital même, que l'on se penche sur les anciens et voir ce que la Bible dit sur cette question-là. C'est quoi un ancien? C'est quoi un pasteur? Et à chaque fois, tu sais que tu t'arrêtes sur ces questions-là, on se sent toujours très interpellé. Moi, cette semaine, le Saint-Esprit m'a demandé, tu prépares un sermon, mais à quelque part, le sermon, c'est ça te parle à toi. Et certainement, ça me rappelle pourquoi on fait ce qu'on fait, puis pourquoi on devrait faire ce qu'on fait, et pourquoi on le fait, les motifs aussi derrière ce qu'on fait. Et j'aimerais ça qu'on aborde la question des anciens ce matin en regardant deux volets sur la question des anciens. Premièrement, le rôle sacré des anciens. C'est quoi les anciens? Qu'est-ce que ça fait? Le rôle sacré des anciens. Puis ensuite, on va passer aux critères d'anciens, aux qualifications d'anciens. Alors, premièrement, le rôle sacré des anciens. C'est quoi un ancien? Puis qu'est-ce que ça fait? Premièrement, je tenais absolument à dire ça en premier. En premier, avant qu'on regarde les qualifications, avant qu'on regarde les choses à faire et tout ça, un ancien, c'est avant tout, en premier, là, un ancien, c'est quelqu'un qui adore, qui aime Jésus-Christ. Amen? C'est ça que tu veux comme un ancien. Un ancien, tu vas avoir quelqu'un qui aime. J'ai tenu à vraiment mettre ça en premier. Un ancien, c'est quelqu'un qui aime Jésus-Christ. Il aime Jésus-Christ au point, premièrement, il comprend que Jésus-Christ s'est offert pour lui, pour ses péchés, pour le sauver. Il s'est donné à Jésus-Christ. Et un ancien se donne à Christ, il sait qu'il ne peut rien faire sans lui, et tout ce qu'il fait, c'est par la grâce de Dieu, et c'est l'œuvre rédemptrice de Christ qui fait qu'aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu, premièrement, et qu'il peut être un ancien. Il a passé à travers, donc, l'expérience de la nouvelle naissance. Et vous allez dire, ben oui, c'est sûr, un ancien, on sait ça. Attention, il y a des églises où les leaders en avant ne sont pas nécessairement nés de nouveau. Et il y a plusieurs églises, il y a des milliers d'églises à travers le monde, et je peux vous dire qu'il y en a dont les leaders, les ouvriers, ne sont même pas nés de nouveau, ne sont même pas les enfants de Dieu. Alors, je ne voulais pas prendre ça pour acquis. Un ancien, c'est quelqu'un qui se reconnaît pécheur, et il sait que Jésus a tout fait ou tout accompli pour son salut. Un ancien comprend ça, et il comprend qu'il n'est rien sans Christ, et c'est la raison pour laquelle il veut servir Dieu, parce qu'il est en amour avec Jésus-Christ. D'accord? Je ne sais pas si vous faites partie de la liste des envois, des lettres de l'email de John Piper. Cette semaine, il a envoyé un courriel cette semaine où il déclare haut et fort qu'il aime Jésus-Christ. Et il y a plus de 40 ans, il a été frappé par cette déclaration d'un de ses profs au séminaire, où il y avait une gang de jeunes étudiants, dont John Piper, tout ça, et puis ça discutait et tout ça. Puis à un moment donné, un prof a répondu, « J'aime Jésus-Christ. » Et c'était pas les réponses théologiques et tout ça qui avaient frappé John cette journée-là, c'était cette déclaration très solennelle, décidée de cet amour pour Christ. Et John Piper, donc, se sert de cette phrase qui lui avait été donnée il y a 40 ans par ce prof qui l'avait vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui, au point de s'en souvenir comme c'était hier. Mais il a ajouté ceci. Il dit, « J'aimerais, en ce début d'année, déclarer mon amour pour Christ. Et voici ce que ça veut dire pour moi. » Et j'ai bien aimé ça, j'aimerais vous le dire. Et d'ailleurs, c'est ça traduit bien l'amour qu'on a pour Jésus-Christ. John Piper dit ceci, « Pour moi, aimer Jésus-Christ, c'est que j'admire Jésus-Christ plus que tout autre, être angélique ou humain. J'aime sa direction et ses paroles plus que celles des autres. Je veux son approbation plus que celle des autres. Je veux être avec lui plus qu'avec les autres. Je me sens plus reconnaissant envers lui pour ce qu'il a fait pour moi qu'envers les autres. Je fais confiance à ses paroles plus que je ne fais confiance aux paroles des autres. Je me réjouis encore plus de son exaltation que dans l'exaltation des autres, moi compris. » Amen. Ouais, c'est ça, aimer Jésus-Christ. C'est ce que je veux avoir comme ancien et c'est ce que je veux être comme ancien. Alors, un ancien, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui aime et qui adore Jésus-Christ. Deuxièmement, un ancien, c'est quelqu'un qui est passionné de Dieu et de son Église. Il veut s'impliquer et servir le Seigneur. Il a ce désir très fort en lui. Et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans un passage qu'on va passer le restant du temps ensemble ce matin dans 1 Timothée. Et j'aimerais vous encourager vraiment à tourner dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, où l'on voit un détail sur les anciens tellement fondamental. Prenez le temps de trouver 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Voici l'apôtre Paul qui va ouvrir son chapitre et adresser cette question sur les anciens, parce que Timothée avait besoin de mettre de l'ordre au sein de l'église d'Éphèse, dont trouver des anciens qui étaient qualifiés. Il y avait vraiment besoin de corriger les erreurs qui s'étaient glissées au sein de l'église, d'avoir des mauvais leaders au sein de cette église. Et Paul va ouvrir sa liste, il va donner une liste de qualifications à rechercher pour établir des anciens. Mais juste avant, voici comment il introduit cette section-là. Il va dire dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Il dit, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, le mot évêque, c'est un synonyme, ça veut dire la même chose, ancien, évêque, pasteur, ce sont tous des synonymes qui mettent un peu l'accent sur différentes choses, mais en gros, on parle de la même personne ici. Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, il désire une œuvre excellente. c'est une œuvre excellente que d'aspirer à cette charge, à ce degré de responsabilité, à cette intensité de se mouiller au sein de l'Église. Mais l'apôtre Paul dit « si quelqu'un aspire ». Et ça, c'est le premier critère. Nous, on a des fois les yeux sur des gens, puis on dit dans l'Assemblée, on trouve qu'il y a des gens qui auraient vraiment beaucoup de potentiel à être des anciens. On aimerait avoir ces bonhommes-là avec nous. Et quand on s'approche pour les rencontrer, on s'aperçoit des fois qu'ils n'aspirent pas du tout à ça. Pantoute. Non, je suis pas là dans ma vie, ça m'intéresse pas pour le moment. Il faut respecter ça. Il faut pas forcer quelqu'un à être ancien. Parce que le premier critère, justement, pour être un ancien, il faut qu'il veuille le devenir. Il faut qu'il le désire. Alors, on force pas ça. Alors, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, le mot aspirer ici est fort, et ça parle du cœur de celui qui veut servir le Seigneur. C'est cette passion qui est si forte qu'elle l'inspire à faire les sacrifices qu'il faut. Voilà. Elle est si forte et si intense qu'elle incite et inspire cet individu qui aspire à cette charge de mettre de l'ordre dans sa vie, de changer certaines priorités dans sa vie, de même s'assurer qu'elle ait les qualifications pour le devenir. Donc, ce sont des sacrifices, et on le fait, bien sûr, pour la gloire de Dieu, mais c'est la personne qui est prête à faire ce qu'il faut pour être qualifié, pour être un ancien. Alors, on ne parle pas ici d'une passion. Et ça, c'est tellement important pour obtenir un poste ou une position. Et j'en ai vu au fil des années et dans l'église où je suis allé. Il y a des gars qui voulaient être pasteurs ou qui voulaient être anciens juste pour être comme les gens qui sont comme les respectés. Ils voulaient avoir comme un genre de position. Tu veux pas... On parle pas ici de ça. On parle ici d'une passion qui n'est pas à rechercher une position. C'est plutôt une passion de vouloir servir le Seigneur et de s'investir pour voir l'Église du Seigneur grandir pour la gloire de Dieu. C'est ça que la personne veut. D'ailleurs, Patrick Fairbairn le dit très bien en disant ceci, « L'aspiration ici doit être la bonne, non celle d'une ambition charnelle, mais de l'aspiration qui vient d'un cœur qui a été touché par la grâce de Dieu, saisi par la grâce de Dieu, et qui désire maintenant voir les autres venir à cette même grâce pour recevoir le merveilleux don de Dieu. » Voyez? L'ancien aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire qu'il désire servir Dieu, et ce désir l'incite à se purifier et garder ses motifs. Alors, un ancien, c'est quelqu'un qui aime Jésus-Christ. Un ancien, c'est quelqu'un qui est passionné de Dieu et de son Église. Et troisièmement, un ancien veille. Ça, c'est son rôle. Il veille sur la spiritualité de l'Église et de ses membres. C'est ce que le mot évêque signifie. Il surveille, il regarde, il s'arrête et réfléchit sur où l'Église est rendue, sur la spiritualité de l'Église. Alors, l'ancien a la responsabilité de conduire, d'instruire, de prendre soin du troupeau du Seigneur. L'ancien est redevable aussi au Seigneur pour la qualité de son leadership. Et ça, c'est un rappel solennel pour chacun des anciens, c'est que nous devrons rendre compte pour chacun d'entre vous. Réalisez-vous ça? Dans Hébreux 13, 17, voici ce que nous lisons. « Obéissez à vos dirigeants et soyez-leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisque qu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie, et non en se plaignant, et ce qui ne vous serait d'aucun profit. » Réalisez-vous que nous devrons rendre compte un jour de vos âmes. Nous devons rendre compte de chaque personne que le Seigneur a confiée. Je pense que c'est John MacArthur qui disait, écoutez, moi je dis au pasteur, il dit, priez pas trop que l'Église grossisse, parce que chaque personne qui s'ajoute à l'Église ajoute à votre fardeau de responsabilité devant le Seigneur. Dans un sens, il y a quelque chose, il y a un petit côté de nous autres qui aimerait ça avoir une église de deux personnes. Ça l'enlève un peu la charge, la redevabilité envers Dieu. Mais en même temps, on sait bien, on veut que le plus grand nombre vienne à Christ. Et ça serait très égoïste de penser comme ça. Et si Dieu choisit de confier 100, 200, 300, 500 et 1000 et 5000 personnes à l'église, gloire à Dieu, ça ferait plus de monde au ciel, plus de gens à glorifier le Seigneur. Et c'est ça qu'on veut, évidemment. Mais on aura à répondre de chacune des âmes que le Seigneur a confiées. Et c'est très solennel, c'est pour ça qu'on a besoin de vos prières. On a tellement besoin de vos prières, que Dieu nous aide. J'ai visité avec Luc, d'ailleurs j'étais avec Luc Penton à Vancouver il y a quelques années, ça fait quand même plusieurs années de ça. Puis on était dans une église. C'est comment ils sont rendus? Je pense qu'il y avait combien d'églises, l'église Huntingdon, là? C'était quoi? 3000 dans le temps, je pense? 4000, hein? Ils sont rendus 6000 aujourd'hui. Puis il y a juste 1000 places. Alors, il y a 6 cultes et ça rentre, hein? C'est une manufacture, là. Il y a 1000 personnes qui rentrent. 1000 personnes qui sortent, 1000 personnes qui rentrent, un après l'autre, là, ça rentre comme ça, 1000, hein, puis on s'est retrouvés dans le couloir, entre les deux cultes, Luc puis moi, on était comme ça, puis là, ça rentrait, puis tout ça, puis le pasteur a été bien gentil de nous accorder une heure et quelques ensemble, on a pu jaser, poser quelques questions, et on lui a demandé, j'ai demandé, comment vous faites de prendre soin de chaque personne, puis mon ami, vous pouvez pas visiter tout le monde, 6000 personnes, puis il nous a répondu ça, hein. C'est tellement bon. Il dit, c'est absolument impossible que je visite tout le monde. Mais il dit, je m'assure que tout le monde soit suivi. Et c'est ça l'idée. C'est la raison pour laquelle on met tellement d'accent sur les petits groupes. Parce qu'à un moment donné, l'Église grossit à un point tel qu'on peut pas prendre soin de chaque individu, mais on veut s'assurer que chaque personne a des soins. Et c'est pour ça qu'on veut intégrer chaque personne au sein des petits groupes, pour s'assurer que chaque personne soit suivie. Alors, quatrièmement, un ancien conduit l'Église, il donne la direction à l'Église. 1 Timothée 5, 17 le dit bien, que les anciens qui dirigent bien. Alors, on parle de direction ici, donne une direction à l'Église. Et évidemment, cette direction s'inspire des Écritures. C'est ça qu'on veut. On veut emmener l'Église à se consacrer davantage. Et nous, en premier, évidemment, nous aussi, on veut ensemble grandir dans le Seigneur et tranquillement viser la stature parfaite de Christ. C'est dans cette direction-là qu'on s'enligne. Alors, un ancien est quelqu'un qui aime Jésus-Christ. Il est passionné de Dieu et de son Église. Il veille sur la spiritualité de l'Église et de ses membres. Il conduit l'Église. Et aussi, cinquièmement, il enseigne l'Église. C'est le rôle d'un pasteur, d'un ancien, d'enseigner, d'instruire l'Église. D'ailleurs, le passage le dit très bien dans 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, tous les anciens n'enseignaient pas, c'est ce qu'on apprend par ce verset-là, mais on voit qu'un des rôles importants et primordial au sein d'une Église, c'est que les anciens puissent enseigner l'Église dans la parole de Dieu. Et c'est ça le rôle de la prédication et de l'enseignement au sein de l'Église. Et sixièmement, les anciens, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils doivent faire, c'est de prier pour l'Église. Nous lisons dans Jacques 5, 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui? » Voyez? Prie pour lui, en loignant à Dieu au nom du Seigneur. Nous avons une responsabilité et un rôle de prière, d'intercéder. Et c'est ce qu'on fait, vous savez. Vous savez, la première demi-heure, ou une heure même parfois, avant chacune de nos réunions d'anciens, on a une liste de soins pastoraux, et vos noms sont là. On a des noms pour des gens qui vivent toutes sortes de choses au sein de l'Assemblée, soit qu'ils passent par des maladies, ou soit qu'ils passent par des temps difficiles. Et vos noms sont sur une feuille que l'on a entre nous, et on prie pour vous. Et on veut que vous sachiez que vous êtes sur notre cœur. Et parfois, on va même prendre le bottin et on va passer à travers chaque famille, on va prier pour vous. Il y a des gens ici, vous réalisez peut-être pas ça, mais il y a des gens dans l'Assemblée qui prient pour vous régulièrement. Les anciens, et il y a des gens dans l'Assemblée aussi qui font pareil, là. Jamais ce matin, je voudrais prétendre que les anciens sont meilleurs que les chrétiens. Absolument faux. On est pécheur, c'est par la grâce qu'on est là, et on le réalise très bien. Septièmement, les anciens prennent soin de l'Église. Et moi, j'aimerais ça vous encourager à tourner dans 1 Pierre. 1 Pierre, prenez quelques secondes et tournez dans 1 Pierre. C'est vers la fin de la Bible. C'est tout près de l'Apocalypse, là, rendu là. Vous êtes vraiment pas loin. Et on va revenir à 1 Timothée, mais j'aimerais quand même prendre 1 Pierre avec vous. 1 Pierre, chapitre 5. Pierre va écrire sa première lettre, 1 Pierre. Il écrit à des chrétiens de l'Asie mineure qui passent à travers la souffrance. Et là, on parle d'une souffrance très spécifique. On ne parle pas ici de souffrance de la vie courante. On ne parle pas ici de souffrance qui est due à la maladie, à la mort ou à la pauvreté. Non, on parle de la souffrance qui est dû à la persécution des chrétiens. D'accord? Donc, toute la lettre est empreinte de souffrance. Constamment, Pierre, il commence d'ailleurs sa lettre au premier chapitre qui parle de souffrance. Et il veut encourager les chrétiens, il veut réconforter les chrétiens qui souffrent en leur rappelant l'espoir qu'ils ont du salut qu'ils bénéficient en Jésus-Christ. Et c'est vraiment pas facile, vous savez, les gens rentraient dans les maisons, les chrétiens n'avaient aucun droit. et tu entrais dans la maison, tu vidais en place, tu pouvais voler les chrétiens, tu n'avais pas la loi avec toi. On pouvait faire ce qu'on voulait avec les chrétiens. Et les gens le faisaient, on persécutait, parfois on prenait ton mari, puis on le mettait en prison pendant des années. Tu savais jamais si c'était pour le retrouver. Alors, l'apôtre Pierre va écrire sa lettre pour encourager les chrétiens à rester fermes et à rester collés au Seigneur malgré les persécutions, malgré les temps de souffrance, que c'est une époque difficile pour l'Église. Et à travers cette lettre qui parle de la souffrance des enfants de Dieu, Pierre, à un moment donné, va se tourner vers les anciens dans le 5e chapitre. Et voici ce qu'il leur dit. 1 Pierre, chapitre 5. Et j'aimerais que vous puissiez vous rappeler du contexte de la lettre qui est de la souffrance. D'accord? C'est le contexte, c'est le but qui a incité Pierre à écrire cette lettre pour encourager les chrétiens. Et là, il va s'adresser aux anciens qui vivent dans un contexte d'église qui est en souffrance. Et voici ce qu'il leur dit. Voici, alors, 1 Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin, je suis témoin des souffrances de Christ. Alors, rappelez-vous des souffrances de Christ. Rappelez-vous de les souffrances que Jésus-Christ a subies à cause de nous autres, notre péché, d'accord? Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et voici l'exhortation que Pierre va donner aux anciens, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles des troupeaux. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez, Pierre est en train de répondre à une question que les anciens se posent en ce moment. À travers cette persécution et ces souffrances et tout ça, la question qui se pose dans le cœur de ces anciens, c'est comment servir l'Église de manière à plaire à Dieu. C'est ça la question ici que les anciens sont en train de se poser. C'est la question que Pierre va répondre. Et Pierre va répondre comme ceci en disant, on sert l'Église dans la souffrance. Et ça implique trois aspects. Premièrement, volontairement, avec un amour inconditionnel. Et ça te prend un amour conditionnel quand tu vis dans un temps difficile, d'épreuves, de persécutions, c'était féroce. Volontairement, avec un amour inconditionnel. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Et deuxièmement, avec dévouement, de façon désintéressée. Il faut s'oublier, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Et troisièmement, en étant les modèles du troupeau. Les modèles de quoi? Des modèles de souffrance. Soyez des modèles de personnes qui vivent dans un contexte de persécution. Et c'est ce que Pierre est en train de leur dire. Quel rappel solennel pour chacun d'entre nous. Il dit, soyez des modèles de souffrance. Non comme dominants sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et Pierre ajoute en conclusion, et c'est ça un rappel tellement solennel, tellement agréable pour nous. Et c'est un rappel qui nous inspire à persévérer, même dans les temps difficiles. Et ce que Pierre est en train de dire au verset 4, « Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Pierre est en train de dire aux anciens, « Rappelez-vous de Jésus-Christ. Voici le modèle de quelqu'un qui a souffert avant la couronne. » Et Pierre est en train de dire aux anciens, la croix vient avant la couronne. D'accord? La croix vient avant la couronne. Soyez donc des modèles de souffrance, comme l'a été Jésus-Christ. Alors, c'est un rappel que nous devons toujours nous rappeler, nous les anciens. C'est-à-dire que parfois, ce sera difficile. Parfois, il y a des gens qui se feront critiquer. Parfois, on va se faire traiter peut-être injustement. Mais il faut se rappeler que la croix vient avant la couronne. Et qu'il faut être des modèles, même en dépit de la souffrance, lorsque la souffrance arrive. Maintenant, heureusement, ici, il n'y a pas beaucoup de souffrance. Soyons honnêtes, on ne vit pas dans un contexte de persécution, et vous êtes très gentils avec nous autres. Alors, heureusement. Mais ça va arriver dans des situations, des fois, de crise, et c'est arrivé ailleurs. Jésus était le modèle du dévouement. Il n'a pas pensé à lui, il est le modèle d'un amour inconditionnel, il a souffert volontairement pour nous. Alors voilà ce que c'est qu'un ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui aime Jésus-Christ, qui est passionné de Dieu et de son Église. Il veille sur la spiritualité de l'Église et de ses membres. Il conduit l'Église, il enseigne l'Église, il prie pour l'Église. Et il prend soin de l'Église volontairement, avec dévouement, et en étant un modèle s'inspirant du modèle parfait par excellence qui est Jésus-Christ. C'est ça un ancien. Les anciens ont donc un rôle sacré, d'où l'importance de bien les choisir. Et Paul nous dit comment les choisir dans 1 Timothée 3. Donc là, on va revenir dans 1 Timothée 3. Et pendant que vous êtes en train de chercher, moi j'aimerais ça faire trois observations juste avant qu'on regarde la liste des qualifications. Première observation, c'est ce qu'on va voir quand tu étudies les critères des anciens, quand tu regardes les qualifications, et Paul va nommer 14 qualifications, critères ou qualités des anciens que tu veux retrouver chez les anciens que tu vas te choisir. Une chose qu'on remarque, c'est pas basé sur des talents. On ne parle pas de talent ici, on parle toujours du caractère. C'est vraiment fascinant de voir la liste des qualifications qui sont données à 1 Timothée 3. Ça parle du caractère de l'individu. Il me semble, moi je regarde certaines personnes parfois, et ils ont beaucoup plus de talent que moi, énormément. Et des fois je me dis, Seigneur, franchement, pourquoi tu ne travailles pas avec lui et non avec moi? Il me semble qu'il ferait la job bien meilleure que moi. Et c'est à pas s'y comprendre, mais Dieu s'intéresse beaucoup plus à son ouvrier qu'à son œuvre. D'accord? C'est le cœur, et on l'a vu dans Matthieu, maintes et maintes fois, Jésus se cherche toujours des cœurs qui sont entiers au Seigneur. D'accord? C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça qu'on veut comme anciens. On veut être et on veut s'entourer d'anciens qui ont un cœur pour Dieu. Un cœur qui est vrai, un cœur qui est humble. Et c'est la première remarque que je voulais faire ce matin, c'est d'aller regarder quand on va regarder les qualifications. C'est vraiment une question de caractère. Deuxième observation, c'est que tous les critères peuvent se résumer en un mot. Être irréprochable. D'ailleurs, Paul va commencer comme ça. On veut que l'ancien soit irréprochable. Ça veut dire quoi? Et ça recoupe tous les autres. Être irréprochable, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Mais ça veut dire que tu ne peux pas vraiment regarder sa vie et pointer du doigt et dire, ah, regarde ça. Regarde ça, c'est un hypocrite. Regarde comment ce qu'il est. Il triche aux impôts. Regardez. Personne ne le sait. Moi, je le sais. C'est moi qui fais sa comptabilité, là. Il triche aux impôts. Tu ne veux pas pouvoir te faire reprocher, pointer du doigt dans un domaine de ta vie pour dire, regarde, c'est un menteur, c'est un hypocrite, et tout ça. D'accord? Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que c'est parfait. Pas question d'être parfait aussi, sans péché. Mais c'est que l'ancien démontre par sa vie, sa consécration, qu'il prend la parole au sérieux. Il est constamment sensible à vouloir mettre la parole de Dieu en pratique dans sa propre vie. Il est sensible à sonder son cœur, sonder ses motifs. Il revient constamment à la croix pour y trouver le pardon et la communion avec Dieu. Tu vois? Troisième observation, ça c'est pour vous autres. Troisième observation, c'est que les critères que l'on va voir sont tous des qualités que nous devrions tous rechercher en tant qu'enfants de Dieu. D'accord? On va regarder la liste ici. Et si c'est des critères de personnes, de chrétiens matures, ça devrait donc être l'objectif de chacun d'entre nous. D'accord? D'ailleurs, il y a un livre qui a été très bien écrit là-dessus qui s'appelle « Vers la stature parfaite de Christ ». Et Gene Getz, Dr. Getz, qu'est-ce qu'il a... Il a basé tout son livre là-dessus. Ils sont en train de regarder ça dans le groupe de LSR. C'est que chacune des critères qui sont là, dans le fond, devrait être la cible et l'objectif de la vie chrétienne. Parce que ces critères que nous allons voir sont un portrait d'un chrétien mature. C'est donc des qualités à rechercher. Voici un portrait de quelqu'un qui arrive, qui se dirige vers la stature parfaite de Christ. Pas rendu encore. Alors, quand on parle de grandir dans le Seigneur, quand on dit, là, on veut grandir dans le Seigneur, ça veut dire quoi? C'est quoi, ce grandir dans le Seigneur? Bien, vous avez ici un portrait de ce que c'est que de grandir dans le Seigneur. C'est de s'améliorer dans chacun de ces domaines que l'on va voir ensemble. D'accord? Alors, quelles sont les qualifications d'un ancien? Il y a 14 qualités ici qu'on va retrouver dans ce passage-là. Premièrement, l'ancien va se garder. Et là, on parle ici dans le domaine, évidemment, sexuel. Il va être fidèle à son épouse, il va être loyal à son épouse. Et même s'il n'est pas marié, il va se garder pur. Il est mari d'une seule femme. Il est irréprochable. Et juste avant, on va lire le passage tout simplement au complet ensemble dans 1 Timothée 3. Et après ça, on va revenir sur chacun des critères. D'accord? Alors, 1 Timothée 3, verset 1. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. D'accord? Alors, on a vu que toutes ces qualités, dans le fond, se recoupent sous l'idée d'être une personne irréprochable. Et c'est quoi être irréprochable? Premièrement, c'est quelqu'un qui est marié d'une seule femme. Littéralement, dans l'original, ça dit « l'homme d'une femme ». Et ça ne parle pas de ton état matrimonial. Ça ne parle pas ici de divorce ou remariage et tout ça. Moi, je pense que c'est une question morale. C'est une question ici de la qualité de ta vie. C'est que tu n'es pas un coureur de jupons. Tu ne veux pas avoir un ancien qui court après les filles. Hein? C'est surtout pas. Et je pense que c'est Jésus commence avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu regardes les statistiques, c'est peut-être le péché qui a fait tomber le plus de pasteurs à travers les États-Unis puis à travers l'Amérique du Nord, certains au Canada aussi. Hein? Et soyons honnêtes. On est rendu dans un monde tellement sexuel, tout tourne autour de ça. La publicité et tout ça, ça tourne autour de ça. Et on est constamment bombardé avec ces images, ces intentions et ces suggestions. Et il faut se garder pur. Comme ancien, tu veux être irréprochable dans ce domaine. En anglais, on appelle ça un womanizer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le traduire en français, là, un womanizer. Alors, s'il est marié, il est fidèle, il est loyal à sa femme. S'il est célibataire, il se garde pur. Juste un argument, on aurait pu prendre une demi-heure juste là-dessus, là, mais juste un argument. On parle ici de morale, on parle ici de sainteté, et je ne pense pas que ça parle de divorce ici. Est-ce qu'un ancien qui est divorcé peut être un ancien? Ça c'est une question à développer ensemble, on pourrait regarder ça. Mais je pense qu'ici, c'est pas le critère. Parce que, premièrement, Jésus donne la permission dans deux cas de divorce. Il y a des cas où c'est tout à fait... Jésus dit, tu peux quasiment pas t'en sortir. Tu parles comme par exemple, tu es marié à un inconverti, et qui n'aime pas le Seigneur, veut rien savoir de ta foi, et toi, tu te convertis, et le mari s'en va, il dit, tu t'abandonnes, je te laisse, je ne veux plus rien savoir de toi, à cause de ta foi, ça ne m'intéresse pas. Et il s'en va. J'ai déjà quitté une blonde comme ça, une de mes copines, parce qu'elle était chrétienne, je l'avais quittée, imagine. Ça n'a pas de bon sens, je la trouvais trop, peut-être trop fine, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis parti. Alors, ça arrive, malheureusement, ça arrive même dans les mariages. Et on en a vu de ça, on en a entendu parler. Alors, Jésus dit, dans ce cas-là, tu es libre. Complètement libre et délié, littéralement le mot, là, ça veut dire que tu es libre. Donc, pourquoi Jésus permettrait un cas, et tout d'un coup ici, ça hypothéquerait une personne? Ça, c'est un des arguments, disons, mais on ne veut pas s'étendre là-dessus, on veut regarder les autres. Donc, l'ancien se garde pur et attaché à son épouse. Toute son affection n'est que pour son épouse. L'original dit littéralement, donc, un homme d'une femme, l'homme d'une femme. Deuxièmement, l'ancien doit être sobre. Ça veut dire tempéré, équilibré. C'est simple, quelqu'un qui se garde, qui est équilibré, pas extravagant, pas extrême. Troisièmement, et on en a vu en télévision, hein, vous avez vu des pasteurs là, qui sont extravagants aux États-Unis. Hein, j'ai déjà vu une entrevue, moi, avec un gars qui était dans le ministère, puis tout, puis il était en entrevue, puis il y avait un paquet de diamants ici, là. Paquet de diamants, là, des bijouteries, puis tout. Puis il a ouvert son compte, puis il a dit, hey, moi j'aurais honte à sa place. Il a ouvert son compte, puis il a dit, I love diamonds. Ah, ça sonne fou, là, tu sais, qui sort de la bouche d'un ancien, là, tu sais. C'est un pasteur, là, tu sais. I love diamonds. On en a trop entendu de ça. Ça sonne faux, hein. Même juste logique, là, ça sonne faux, là. Extravagant. Tu parles à ça, là, tu sais. Troisièmement, l'ancien est modéré. Ça parle de maîtrise de soi. Le mot évoque ici l'idée du sérieux de l'Évangile. Quand on sert le Seigneur pendant plusieurs années, on commence à voir le monde comme le Seigneur le voit. Tu sais. Tu commences à voir le monde à travers les larmes de Jésus-Christ aussi. Et là, il y a un fardeau qui s'instaure dans ton cœur. Il y a un fardeau pour les âmes perdues. Et tu réalises de plus en plus que ce monde se dirige vers une perdition, vers la chute, vers un jugement dernier. De plus en plus, tu réalises ça. Donc, il y a un sérieux qui est là. Et ça ne veut pas dire que l'ancien n'a pas le sens du mot. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu as un ancien qui va aller le visiter, il va gâcher le party. C'est pas ça que ça veut dire. Il y a un sens du mot, absolument. Mais ça veut dire aussi, quand même, que l'ancien comprend le sérieux de ce qui se passe, de ce qu'on est en train de faire au sein de l'Église. Il est conscient de la perdition des hommes et de la rébellion des hommes envers leur Dieu et la conséquence du péché. Alors, il est modéré, il est sérieux pour le royaume de Dieu. Et le mot comprend également l'idée d'avoir un bon jugement. Il est réfléchi, il juge avec beaucoup de réflexion, avec précaution. Fait attention quand il donne ses jugements ou ses réflexions. Il a de bonnes réflexions, il se contrôle, il se maîtrise. Il maîtrise ses pensées. Philippiens 4:8 le dit bien. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimant, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça, on parle des pensées. Il veille sur ses pensées pour s'assurer justement que ses pensées soient vraies, honorables, ce qui est juste, pur, aimable et ce qui mérite l'approbation. D'accord? Quatrièmement, il est réglé dans sa conduite. Il s'organise. Le mot original est « cosmios » et ça part du système du monde, ça part du système bien organisé, bien réglé, bien arrangé. C'est une personne qui est sobre et qui se maîtrise. Sa vie est en ordre. Il va être responsable. Tu peux lui confier des responsabilités. Il va les faire. Il va les rencontrer. Il te laisse pas tomber. Il te lance pas la serviette tout le temps. À chaque fois que tu confies quelque chose, t'es pas nerveux à chaque fois que tu lui confies une tâche pour savoir vas-tu la faire, vas-tu la domper, vas-tu la redonner. Non, c'est quelqu'un de responsable. Il s'organise. Il est réglé dans sa conduite. D'ailleurs, vraiment intéressant. Le contraire du mot original ici, il est réglé dans sa conduite, cosmios. Le contraire, c'est le mot chaos, chaos, chaos. Alors, tout à l'envers, tu vois. Alors, ça donne vraiment une idée là, de ce que Paul a en tête ici. C'est l'idée, et c'est une qualité qui est requise, il faut bien diriger l'Église. Il y a de la gestion à faire au sein d'une Église. Il faut bien la faire, il faut s'organiser. Cinquièmement, il est hospitalier. Et ça, c'est vraiment une belle qualité. Vous savez, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hôtel 5 étoiles, pas d'Holiday Inn. Ça n'existait pas. Il y avait des auberges, et les auberges, c'était plutôt des maisons de prostitution. D'ailleurs, les aubergistes te volaient, te frappaient, te battaient. Tu voulais pas aller rester dans ces endroits-là. Tu comprends? D'ailleurs, les familles, à l'époque de l'Antiquité, ont même développé un système pour s'entraider, pour s'héberger. Qu'est-ce que tu fais quand tu voyages, puis tu t'en vas dans une autre ville? Tu veux pas aller rester à l'auberge. D'ailleurs, je pense que c'est Platon, j'ai ici sa citation, Platon compare les aubergistes à des pirates qui exigent une rançon de leurs invités. Imagine-toi, tu t'en vas dans un Holiday Inn, puis tout le monde te regarde, tous les employés, puis attendent juste que tu rentres dans ta chambre pour aller courir après toi, puis te voler ton portefeuille. C'était comme ça dans le temps. On essayait de te manipuler, te saisir, puis recruter pour faire du mal, des vols. Alors là, les familles ont bâti un système d'entraide, qu'ils appelaient ça les amis d'étrangers. C'est un système que lorsque tu avais ta famille, tu t'en allais faire un voyage, mettons, à 50 kilomètres plus loin, tu allais retrouver Madame Chose, la famille, ta cousine qui était éloignée, etc., tu allais là-bas. Et tu avais comme ce système d'hébergement entre familles. Mais là, il y avait un problème, c'est qu'au fil des générations, tes enfants grandissent, puis les enfants, ils connaissent pas la famille là-bas, là. Donc, et la famille là-bas connaissent pas. Donc, quand un étranger allait se pointer le nez à ta porte et disait « j'aimerais avoir de l'hébergement, je suis de la famille un tel », bien, comment est-ce que je sais si c'est vrai? Ils avaient développé un système qu'ils appelaient ça « le compte ». Le jeune arrivait avec la moitié d'un objet et le présentait à la famille qui restait à 50 kilomètres plus loin. Et l'autre moitié de l'objet, c'était le propriétaire qui l'avait. Ils pouvaient comparer ça ensemble. « Ah, d'accord, toi, t'es de la famille un tel. Viens-t'en, on va t'héberger puis on va te garder pour une couple de jours. » Donc, il y avait tous ces systèmes qui étaient mis en place parce que c'était vraiment un problème, l'hébergement, dans le temps. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire « L'Église devrait être la place la plus sécuritaire à aller rester. » Les familles de l'Église devraient ouvrir leurs portes et accueillir ces voyageurs. Il y avait même des pasteurs et des enseignants qui voyageaient, qui allaient de place en place. Ouvrez vos portes pour accueillir ces gens-là. Évidemment, faire attention, ça, je comprends très bien ça. Mais c'est l'une des qualités de l'ancien, c'est que sa porte est ouverte. Il n'y a pas de problème. Vous voulez venir dîner chez nous? Ouais, venez vous-en, pas de problème. Je vais faire à manger. OK, chérie, inquiète-toi pas, je vais la faire manger. Non, la porte est ouverte. Et ce que ça veut dire aussi, en gros, c'est une autre façon de dire dans le langage moderne, être un people person. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Un people person, c'est que tu aimes les gens. C'est une belle façon de dire d'aimer les gens. Et d'aimer, littéralement, dans l'original, c'est ça que ça dit, c'est deux mots dans l'original qui est collé ensemble, c'est étranger puis aimer. Avoir de l'affection, et c'est l'amour comme un ami, être un ami des étrangers. Donc, ce que ça dit, c'est qu'un ancien, si tu veux avoir quelqu'un qui aime les gens, ça prend ça. Ça, c'est un des critères. C'est une personne qui a à cœur les gens. Et c'est une belle façon de le dire. Propre à l'enseignement, évidemment, c'est quelqu'un qui aime la parole, qui aime étudier, qui connaît bien les Écritures. Il sait pourquoi il croit ce qu'il croit. Il sait comment défendre ce qu'il croit. Et il sait aussi, il est enseignable. ne pense pas avoir toutes les réponses. Il est humble et il veut être enseignable. Il veut apprendre aussi. Il sait qu'il peut apprendre. Les frères et sœurs, il veut apprendre. Septièmement, il n'abuse pas de l'alcool. Et ça parle ici, ni à donner au vin, ça veut dire, ça veut pas dire qu'il n'a pas le droit de prendre un verre de vin, ça veut dire qu'il n'est pas en boisson. Et c'est pas quelqu'un qui passe sa journée à côté de l'alcool. Tu ne veux pas voir ton ancien au bar, passer toute la journée au bar. C'est ça, c'est amoureux de l'alcool, dans le sens de, alcoolique ou en chance, excès du vin. On voit ça souvent dans les Écritures. Huitièmement, c'est pas un bagarreur violent, pas une personne violente. Tu veux pas te battre avec d'autres anciens, garder des chicanes à coups de poing. Et littéralement, c'est ça, c'est le coup de poing. C'est quelqu'un qui est bagarreur, hein, qui se bat. Et t'as entendu parler de ça, hein? Il y a des diacres, des fois, qui se battent et, à coups de poing, puis à coups de... avec les anciens. C'est arrivé, hein, dans les églises, j'ai entendu parler. Mon doux. Puis ça a fini à coups de poing dans l'église, puis ça, dimanche matin, mais toi, hey, tu veux pas avoir un bagarreur, hein? Pas une personne violente. Alors, 2 Timothée 2, 24 le dit bien, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doué de patience. » L'autre chose aussi, neuvièmement, indulgent. On va passer assez vite sur ceux-là. Indulgent, ça veut dire qu'il est doux. Il est gentil. On voit dans Philippiens 4, 5, le même mot, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » C'est quelqu'un, donc, qui pardonne facilement l'erreur des autres. Pas quelqu'un de rancunier. Tu ne veux pas avoir un ancien qui est rancunier. Tu sais, que tu fais quelque chose, hein, puis là, il t'en veut, puis il te regarde de travers pendant chaque dimanche matin, il te regarde, tu sais, en galère, au gueulé, lui. Tu ne veux pas avoir ça. C'est quelqu'un qui pardonne facilement. C'est quelqu'un qui oublie vite le mal qui est fait. Garde l'espoir sur ce que Dieu peut faire dans ta vie. Pacifique, dixièmement, c'est pas un querelleur. Il n'y a pas une chicane. Pas à chaque fois que tu parles à un ancien, t'en te chuter, il va te chicaner. C'est toi en train de te chicaner. Tu peux voir ça, que ça va être tendu dans la discussion, tout ça. Tu veux te sentir à l'aise à ouvrir ton cœur à un ancien. Tu veux pas quelqu'un qui aime la chicane, querelleur. Quelqu'un de désintéressé, onzièmement. En d'autres mots, il fait pas ça pour l'amour de l'argent. Il est pas là pour se remplir les poches. Douzièmement, il dirige bien son foyer. Et l'apôtre Paul fait une belle comparaison avec la famille. Et l'Église, c'est une grande famille. Il dit, écoute, la logique est là, versets 4 et 5. Il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de Dieu? En d'autres mots, les enfants suivent son leadership en une parfaite honnêteté. Ça ne parle pas ici de l'honnêteté que l'enfant n'est pas un voleur. Ça parle que la soumission ou de suivre le leader se fait honnêtement dans le cœur. Ça vient du cœur de l'enfant. En d'autres mots, le père agit de façon à ce que l'enfant veuille suivre ce leadership. Et c'est pas aussitôt que le père est parti de la maison que tout d'un coup il devient un monstre. Là, c'est pas ça l'idée. Il est honnête dans sa façon de suivre le leadership du père. Et oui, il va y avoir des moments très difficiles, très douloureux à l'enfance. Oui, j'ai vu des pasteurs qui ont passé des temps très difficiles. Et ça, c'est toute une question qui est... pas évidente. Des fois, les enfants vont passer des temps difficiles. J'ai vu M. Héron avoir un enfant qui est très, 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 très rebelle. Il s'est même fait de la prison. Et c'est vraiment pas évident. Alors, voici comment la Bible, en français courant, traduit ce verset-là. Qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. Oui, c'est comme ça qu'on a traduit le mot honnêteté ici. J'aime bien ça, la façon que c'est traduit. Treizièmement, il faut qu'il ait quelques années dans le Seigneur. Et ici, c'est une question d'orgueil. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, verset 6, de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sur le jugement du diable. Et quatorzièmement, il faut qu'il ait un bon témoignage. Tu veux avoir un bon voisin. Tu veux être un bon voisin. Comme ancien, tu regardes les gens autour, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Et il n'est pas toujours quelqu'un là en train de défendre ses droits. Puis tu veux que l'ancien ait un bon témoignage des gens du dehors. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on veut comme Église. Hein? On veut que l'Église ait un bon témoignage envers ceux du dehors. C'est pour ça qu'on aide les gens avec Bouffe pour tous, on donne la nourriture et tout ça pour communiquer le message qu'on aime les gens. On veut leur faire du bien, on veut les aider. Et c'est ça qu'on veut faire comme ancien aussi, ça commence là aussi. D'accord? Et prions pour le choix que vous allez faire dans les prochaines semaines. On va vous présenter deux candidats. Vous aurez l'occasion de vous prononcer sur cette charge qui est sacrée, ce rôle qui est sacré des anciens. Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur, on réalise quand même, en voyant ces nombreuses qualifications et ce cœur que tu recherches pour les anciens, comment que tout est fait par ta grâce, Seigneur. On ne peut rien faire, rien accomplir sans ta grâce. Et on veut, Seigneur, se coller à toi et dépendre de toi pour faire cette œuvre en chacun d'entre nous, pour que chacune de ces qualifications devienne des qualités que nous voulons poursuivre dans nos vies, Seigneur. Et ça, c'est pour ça chacun d'entre nous dans l'Église. Nous sommes tous interpellés par ce passage. C'est pas juste une question de se choisir des anciens, quoique c'est très sérieux, mais c'est aussi que 1 Timothée 3 est aussi une cible à atteindre pour chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, avoir chacune de ces qualités traduites dans nos vies. Alors aide-nous, Seigneur, en 2009, à ce que cette année nous emmène encore plus près de la stature de Christ. Au nom de Jésus. Amen.